Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Chopin disait que le jeu de Paganini ne peut s'expliquer que par les seules forces humaines. L'écrivain Heinrich Heine parle d'une figure obscure sortie de l'enfer. La comtesse d'Ache, écrivaine française, évoque un magicien suppôt du diable, alors qu'un critique londonien conclut après un concert, je cite, que ce sorcier ne peut que pousser la majorité des violonistes au suicide. Mais qu'a-t-il fait, le violoniste italien Niccolo Paganini, pour susciter tant de réactions enflammées et de métaphores démoniaques? La légende veut que dès son enfance à Gênes, dans les années 1780, sa mère ait prié le Christ pour qu'il devienne un grand musicien. Ce sera pourtant l'image du diable qui lui collera à la peau. Et justement, à cause de sa peau visqueuse et pâle, pour son allure aussi, d'une maigreur patibulaire, pour son visage émacié, percé par des yeux noirs et entaillé d'une bouche de plus en plus édentée au fil de sa vie. Le tout encadré dans une sombre chevelure tombant sur des épaules asymétriques. L'adjectif cadavérique revient souvent pour décrire un homme un tantinet inquiétant et qui plus est perpétuellement malade. Mais lorsque cette silhouette dégingandée monte sur scène avec son violon, la fragilité fait place à la vigueur. À l'image des squelettes guidés par la mort dans les danses macabres, le sac d'os devient fougueux, prend vie au rythme de la musique. Et le contraste entre ce corps chétif et la puissance de son jeu participe sûrement de la légende d'un être animé par le diable. Au-delà d'une apparence physique singulière, Niccolo Paganini est surtout un violoniste qui a bouleversé son art avec un génie d'autant plus étonnant qu'il semble presque inné. Formé par un père amateur de mandoline, il commence le violon à 7 ans, placé auprès de professeurs qui ne cesseront de l'envoyer vers d'autres, confessant pour certains n'avoir pas grand-chose à lui apprendre. Dès ses jeunes années, Paganini développe des techniques qui feront sa renommée de concertiste. Il abandonne la façon dite française de tenir le violon à l'horizontale et le penche en avant. Il utilise le pizzicato, le fait de pincer les cordes avec les doigts, avec une dextérité déconcertante et surtout avec la main gauche, celle qui tient le manche pendant que l'archet dans la main droite bondit avec vélocité et précision. Il se joue des octaves harmoniques avec fluidité, venant parfois presque toucher le chevalet de sa main gauche et atteindre des aigus qui demeurent cristallins. On pense désormais que Paganini était atteint du syndrome de Marfan, qui se manifeste notamment par une hyperélasticité des articulations, mais pour nombre de ses contemporains, de telles facultés ne pouvaient être que surnaturelles. Car s'il a du talent, Paganini a surtout une réputation légendaire, celle d'avoir pactisé avec le diable pour maîtriser son instrument. Il se raconte qu'il passa des années en prison pour le meurtre d'une maîtresse et que c'est dans sa geôle, aidé par Satan lui-même, qu'il put perfectionner son génie. S'il est bien passé par la prison en 1814, ce ne fut que 8 petits jours pour une sombre affaire de mœurs et il était déjà un musicien abouti. Mais la légende n'a que faire de la vérité. La vérité est que Paganini explore des possibilités techniques jamais vues. Il innove avec audace et parfois impertinence. Sûr de lui, il cabotine avec son audience. Il se raconte qu'il fit un soir exprès de jouer sur une corde fragile qui se brisa en plein concert afin d'impressionner encore plus le public en continuant comme si de rien n'était. Il met en application son extravagant doigté dans des compositions dont certaines telles les 24 Caprices, publiées en 1820, sont toujours considérées aujourd'hui comme une étape obligée, crainte par de nombreux violonistes. Il exécute les œuvres d'autres compositeurs en poussant souvent l'insolence jusqu'à ajouter des notes et préfère offrir ses propres pièces et improvisations au public car ce sont elles qui laissent véritablement la place à son génie. En bon virtuose, Paganini ne fait pas que jouer, il s'exhibe en train de le faire. Il est l'un des premiers musiciens de son époque à s'affranchir du mécénat des puissants pour vivre en tournée quasi permanente à travers les théâtres d'Europe face à une nouvelle bourgeoisie avide de plaisir. Sa réputation subversive le précède partout et on ne compte plus le nombre de dames qui s'évanouissent en plein concert, grisées par le jeu exubérant de ce diable célibataire, dépeceur de maîtresses. En ce début du 19e siècle, le monde de l'art a changé. Le romantisme émerge, le triomphe de l'individu et de ses passions, et avec lui l'exaltation du fantastique. Le public aime cette image du diable car elle permet dans un sens de transgresser un certain ordre moral, de ne plus apprécier la musique de façon rationnelle, technique, mais par le truchement de Satan. Elle permet de s'abandonner totalement, de se livrer au seul plaisir des sens que la technicité irraisonnée de Paganini décuple. Paganini n'est plus un homme, mais une figure, celle du génie romantique qui crée son époque autant qu'il s'y déploie. Il joue de son image mystérieuse, refuse de s'exercer en public et limite les répétitions au seul passage avec orchestre pour réserver son jeu à l'éblouissement du public. Les tournées se succèdent en Italie, puis à partir de 1828 en Autriche, Allemagne, France ou encore en Angleterre. Il n'hésite pas à faire augmenter par deux ou trois le prix des billets et se taille au passage une fortune colossale alors qu'il continue à monter sur scène avec le même manteau noir hors d'âge et une mine défaite. De sujet d'actualité dans les gazettes, il devient même sujet de fiction. Nombreux sont les vaudevilles ou nouvelles dont il est le personnage central. Il est une légende vivante. Et sa mort, loin d'estomper le mythe, ne va faire que le nourrir. Épuisé par une vie nomade, éternellement malade, tout enchaînant les concerts à travers l'Europe, Niccolo Paganini termine sa vie dans la cité de Nice, alors, je le rappelle, en terre italienne, au royaume de Piémont-Sardaigne. Est-ce la syphilis, la tuberculose, une tumeur au larynx ou les innombrables cures d'opium et de mercure qui finissent par l'emporter? Le fait est qu'il dépérit, se décompose littéralement comme il l'écrit lui-même. Il perd sa voix et beaucoup de ses facultés. Le diable agonise et, par superstition, on se signe en passant devant sa maison. Sa mort le 27 mai 1840 ne calme pas les peurs et médisances. Alors qu'il se considérait catholique, sa réputation de suppôt de Satan et une incompréhension au moment de la visite d'un prêtre pour les derniers sacrements font qu'il est considéré sans Dieu par l'évêque de Nice qui lui refuse une sépulture chrétienne. Et le lendemain de sa mort, le cadavre a disparu. Une preuve, s'il en fallait une, que Paganini n'était pas humain, mais bien de substance diabolique. Ce sont en fait son fils Achille et son ami le comte de Cézolle qui ont mis la dépouille à l'abri, d'abord à l'hôpital de la ville, puis dissimulée dans une cuve à huile, afin de prendre le temps de plaider la cause du défunt auprès des instances officielles et lui obtenir des funérailles religieuses dignes de son nom. Sa dépouille connaîtra de rocambolesques aventures transportées par la mer ou la route en toute discrétion entre Nice, Gênes et Parme, où le transfert solennel en cimetière catholique est enfin autorisé par le pape en 1875, c'est-à-dire 35 ans après sa mort. Paganini continuera de fasciner. Son cercueil sera encore ouvert à deux reprises, en 1893 puis en 1940, pour s'assurer de la présence de son corps, comme pour vérifier qu'il n'aurait pas rejoint son diable de maître. Mais plutôt que sa prétendue essence maléfique, c'est surtout sa musique qui a fait sa postérité. Nombreux sont les musiciens qui, du vivant du violoniste ou après sa mort, lui rendront hommage dans des compositions reprenant ses thèmes. Liszt, Chopin, Brahms, Rachmaninoff, entre autres, ont composé des œuvres inspirées par Paganini. Et ce sont certainement eux, et non le diable, qui l'ont véritablement rendu immortel.
Europe 1, historiquement vôtre.